dire bactériologique, est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
L'humiliation, qui était un abaissement volontaire devant Dieu, est devenue un abaissement subi et mal supporté comme avilissant. Quand l'humiliation était une acceptation de l'humilité, elle apportait un apaisement moral. Tout au contraire, à partir du moment où on identifie l'honneur et l'estime de soi au succès et à l'abaissement des autres, dans une morale de la compétition, tout échec est vécu comme humiliation.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions sont différentes.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Bonjour. Un livre précieux a été consacré voici quelques années à un thème que son auteur a voulu faire résonner entre le passé et notre temps. Ce livre s'intitule « L'humiliation, le Moyen-Âge et nous ». Voilà bien une incitation à en parler ici. Son auteur est l'académicien Michel Zing, familier de la littérature médiévale, le domaine de sa chaire au Collège de France. Il démontre que si l'humiliation nous est odieuse, parce que nous nous identifions spontanément à nos semblables lorsqu'ils en sont accablés, en revanche, l'héritage du christianisme en fait une notion profondément différente, puisqu'il se fonde sur l'exaltation de l'humilité, résultant en droite ligne de la passion du Christ, scène d'humiliation, s'il en fut jamais. Ainsi s'affrontent deux idéaux contradictoires que la société du Moyen-Âge a eu grand mal à concilier. D'un côté, en ligne directe par rapport à l'Antiquité, l'affirmation qu'il n'est rien de pire que de perdre l'honneur, de l'autre, une religion de l'humilité posée comme une qualité essentielle destinée à assurer le salut. Michel Zing nous démontre que le Moyen-Âge vécut cette contradiction tantôt en refusant de la voir et en feignant de l'ignorer, tantôt au contraire en la désignant et en la méditant avec une véhémence angoissée, mais sans jamais qu'il parvint à la résoudre. Or, il se trouve que pour l'historien qui va nous parler, l'humiliation est la pire épreuve qui se puisse endurer. Elle est, je le cite, le mal absolu. Elle est, dit-il, pour celui qui l'inflige, la pire faute qui se puisse commettre. Et pour celui qui la subit, la pire épreuve qui se puisse endurer. Cela vaut, aujourd'hui comme hier, dans l'ordre social, dans l'ordre politique, dans l'ordre moral, comme dans l'ordre sexuel. Je vous invite, avec Michel Zing, à un va-et-vient salutaire, salutaire intellectuellement à coup sûr, mais bien davantage, probablement. Et d'abord, une rencontre entre Rutebeuf et John Baez, du XIIIe siècle au XXe.
Que sont mes amis devenus, que j'avais de si près tenu, et tant aimé. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés, l'amour est mort. C'est tes amis que vent importe, et qu'ils vantaient devant ma porte, les importants. Avec le temps qu'abre de feuilles, quand il ne reste le branche-feuille que n'aille à terre. Avec pauvreté qui m'atterre, qui de partout me fait la guerre, l'amour est mort. Convient pas que vous raconte comment je me suis mise en honte, en en quelle manière. Que sont mes amis devenus, que j'avais de si près tenu, et tant aimé. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés. L'amour est mort. C'est tes amis que vingt importe et qu'ils vantaient devant ma porte les importants. Pauvre sens et pauvre mémoire, m'a dû donner le roi de gloire, et pauvre rente. Et droit que le combis et vent, le vent me vient, le vent m'avance, l'amour est mort. Je ne sais pas su venir de ce qui m'avait à venir, mais d'avenu.
Michel Zinc, bonjour.
Bonjour.
C'était donc John Baez qui, en 1965, chantait Rutebeuf, grand poète français, un des premiers du XIIIe siècle. C'est une sorte de construction de plusieurs poèmes qui avaient été faits par Léo Ferré précédemment. Il m'a semblé que nous pouvions commencer notre conversation de la sorte, puisque plusieurs des thèmes que nous allons rencontrer, la honte, la pauvreté, sont ici présents et de belle façon.
Les Rutebeuf, dont nous ne savons rien, sinon ce sobriquet, et puis en reconstituant qu'il a étudié à Paris, qu'il a été le pamphlétaire stipendier du parti des professeurs séculiers de la faculté de théologie dans la querelle qui les opposait aux ordres mendiants, mais nous ne savons rien. Mais il y a une série de ses poèmes dans lesquels il se met en scène comme une sorte de one-man show, comme on ne dit pas à l'Académie française, et où il l'étale à la fois sa misère et ses vices. Donc il se plaint et il se présente dans une situation pitoyable et en même temps méprisable. Mais le fait qu'il en parle lui-même et qu'il en parle avec tant de verve et tant d'habileté atténue un peu l'humiliation, comme c'est toujours le cas lorsque c'est la victime qui en parle.
Il fait de l'humiliation littérature.
Il fait de l'humiliation littérature.
À cet égard, il a une descendance.
Il essaye d'apitoyer avec cela. Il montre combien sa situation est évidemment mérité en un sens. Il boit, il joue, il a laissé ses vêtements en gage au tavernier. Mais en même temps, elle est injuste socialement, en somme, et on l'a présentée à juste titre comme l'ancêtre des poètes maudits. Dans un de ses derniers poèmes, il dit « Voilà, je suis à Paris, au milieu de toutes les richesses, et il n'y a rien qui soit à moi. Si je dors, c'est sur le paillis, et lit de paille n'est pas lit, et dans mon lit n'a fort la paille, il n'y a que la paille. » Voilà, ça c'est Rutebeuf.
Vous dites quelque part, Michel Zinc, qu'il n'y a pas une échelle de l'humiliation. Et pourtant là, vous en esquissez une, puisqu'il dit que parlant de lui-même, et en faisant poème, il se libère d'un excès de cette humiliation.
Lorsqu'on en parle, la victime de l'humiliation peut en parler d'une façon qui à la fois ravive la plaie, mais en même temps la rend supportable, parce que la victime peut faire valoir qu'elle est victime, et elle peut aussi trouver justification à ses propres yeux en jugeant elle-même qu'elle est humiliée injustement. Et ce qui est terrible, c'est parce que l'humiliation est une convention. Nous décidons la société décide qu'il est humiliant d'être tout nu dans la rue, mettons. Ben, il y a des sociétés où on se promène tout nu et c'est pas humiliant.
Regard collectif et en même temps aussi subjectivité, dites-vous, de l'humiliation.
Oui, et subjectivité aussi parce que on se sent sous le regard des autres, on sent le regard des autres sur soi, etc. Mais d'une certaine façon, nous sommes, nous, sensibles surtout à des récits d'humiliation et les récits par un tiers. Alors, si la victime se plaint, comme Ruth Boeuf, nous la plaignons naturellement. Mais moins que si un récit nous dit « on lui a fait ceci ou cela ». On lui a dit ceci ou cela, et il me semble, mais c'est peut-être en moins le littéraire qui parle, qui est toujours sensible à la façon dont les choses sont racontées, que à ce moment-là, cela devient insupportable. Pendant le capitaine Dreyfus n'a cessé de répéter « je suis innocent » pendant qu'on le dégradait, mais lui pouvait avoir en lui la force de savoir qu'il était innocent. Mais quand nous lisons un récit de la dégradation de Dreyfus ou quand nous voyons l'illustration du petit journal, eh bien nous ne pouvons pas regarder ça de sang-froid. C'est ça qui est insupportable.
C'est pour ça que vous dites que c'est le mal absolu. Mais que c'est le mal absolu précisément lorsque l'humilié ne peut pas s'exprimer.
Lorsque l'humilié ne peut pas s'exprimer, et c'est souvent le cas parce qu'il y a de petites humiliations, mais c'est comme les blessures, une petite écorchure peut faire plus mal qu'une maladie grave, et c'est pourquoi infliger l'humiliation, même minuscule, est quelque chose, d'une certaine façon, d'impardonnable.
Je ne veux pas vous entraîner trop loin dans l'égo-histoire, mais à lire le beau livre que nous proposez, on est forcément sensible à la place que vous y prenez vous-même, où vous dites que cette mise à distance à laquelle vous travaillez n'est pas une dérobade et vous faites surgir même un certain nombre de souvenirs personnels, de souvenirs d'enfance où vous avez humilié et vous ne vous le pardonnez pas.
Tout le monde a le souvenir d'avoir été humilié, mais cela souvent on peut le supporter. Mais le souvenir d'avoir humilié, et j'ai des souvenirs d'enfant, d'avoir dit quelque chose dont je savais que cela pouvait blesser, dont je savais que ça pouvait être méchant, sans mesurer à l'époque peut-être ce qui me paraît aussi insupportable aujourd'hui, mais je me cherche des excuses, je le savais très bien. Et je mets cela en rapport avec quelque chose qui est tiré de l'Évangile, mais je garde l'interprétation. Pour moi, j'ai l'impression que personne d'autre ne l'a dit, donc je dois me tromper, moi je ne suis pas exégète.
Donnez-nous-la quand même.
Oui, au début du sermon sur la montagne dans l'Évangile de Matthieu, Jésus dit « je ne suis pas venu abolir ou changer la loi, voilà, je vais jusqu'au bout. » Et il est écrit « tu ne tueras point ». Eh bien, moi, je dis, celui qui traite son frère d'imbécile est condamnable. Celui qui se moque de lui est voué à la géhenne éternelle. Et on dit, oh là là, qu'est-ce qu'il est exigeant, c'est bien pire. Même de petites fautes comme cela, il veut les punir. Eh bien, moi, je l'interprète à l'inverse. Tuer, ça peut arriver, on peut avoir le sang chaud, on peut se trouver dans une situation où, etc.
Bon. Si vous le dites.
Bon, si on peut dire, oui. Mais traiter son prochain d'imbécile, on n'est jamais obligé de le faire. On n'est jamais obligé d'humilier, et c'est quelque chose qui peut être pire que la mort. Donc, même à la lettre, cette parole peut être vraie.
Alors, il y a quelque chose là. Alors, il faut que nous arrêtions un instant sur l'origine du mot « humus » et rapprocher humiliation d'humilité. Ce ne sont pas des doublets, d'ailleurs, nous dites-vous, mais l'origine est la même. Ça vient de humus.
Voilà, les deux mots sont des dérivés de humus, qui désigne la terre. Et donc, on se met, quand on est humble, on se met au ras de terre.
Plus bas que terre, même.
On dit plus bas que terre, l'expression existe. Et l'humiliation est comme une humilité intermédiaire. On vous met plus bas que terre. On ne l'a pas demandé, on n'y peut rien. Et l'humiliation est toujours quelque chose de subi, alors que l'humilité est une vertu, mais est une vertu pour nous, est une vertu à cause de la marque du christianisme. Mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout, qui ne va pas du tout de soi. Dans l'Antiquité, païenne, ni tapeinos, qui a le même sens en grec, ni humilis, donc avec humus en latin, ces deux mots ne sont jamais pris en bonne part. C'est jamais bien d'être au ras de terre. Et même dans l'Ancien Testament, l'humilité est une vertu, mais seulement au regard de Dieu. On est humble devant Dieu, mais pas devant les autres. Et d'ailleurs, dans les psaumes, on ne cesse de dire à Dieu « Ah, c'est méchant, il m'humilie et venge-moi, humilie-les », n'est-ce pas ? Mais considérer que l'humilité, même vis-à-vis des autres, et surtout vis-à-vis des autres, est une vertu, et que l'humiliation est totalement un mal, sur le modèle de la passion du Christ, ça c'est quelque chose typiquement chrétien, et ce qui s'est trouvé, qui a placé la civilisation médiévale, au moment où le christianisme devient le modèle de la civilisation, dans une situation difficile, parce que c'était une société de l'honneur.
Et d'ailleurs, certains écrivains du XIXe siècle, éminents, qui se sont posés largement contre le christianisme, ont protesté. Là, quand je pense à Nietzsche, qui disait « Non, l'humilité n'est pas une vertu ».
Oui, pour Nietzsche, l'humilité n'est pas une vertu, et il reproche justement au christianisme de faire l'éloge de l'humilité.
Et cela va nous conduire à cette contradiction que le Moyen-Âge a vécue si difficilement. Mais auparavant, je voudrais vous faire entendre un texte contemporain pour situer les choses et voir quelle est la légitimité, et je crois qu'elle est tout à fait avérée, de votre rapprochement entre le Moyen-Âge, déchiré entre deux nécessités, et d'autre part notre actualité. C'est un extrait du premier livre d'Annie Ernaux, qui remonte à 1974, « Les armoires vides », qui est lu ici par Bernadette Lange dans l'émission de Pierre Cipriot, une grande voix de France Culture, naguère. Son émission s'intitulait « Un livre des voix ». Cette archive date du 20 septembre 1974.
On ne parle jamais de ça, de la honte, des humiliations. On les oublie, les phrases perfides en plein dans la gueule, surtout quand on est gosse. Étudiante. On se foutait de moi, de mes parents. L'humiliation. Il n'y avait pas que la maîtresse du cours préparatoire, la salope. Ses longues mains blanches, même quand il n'y avait pas de craie, c'est comme s'il y en avait. Toujours à tripoter le stylo plume or. Les filles. Qu'est-ce qu'il fait ton père ? Épicier, c'est chouette, tu dois manger des bonbons. Tout doux, tout chaud au début, on ne s'y attend pas, je suis fière, heureuse. Et d'un seul coup, la poignée de mots qui va tourbillonner en moi pendant des heures entières, qui va me faire honte. Café aussi ? Il y a des bons hommes sous alors, c'est dégoûtant. Ma faute. J'aurais dû me taire. Je ne savais pas. Dans le quartier Clopard ? C'est où ça ? C'est pas dans le centre ? C'est une petite boutique alors ? Dans la classe, j'y pense. Je regarde la fille qui m'a humiliée. Jeanne, devant moi, souriant, ses grandes dents et sa langue toute large, à moitié sortie quand elle rit. Je ne peux rien faire. C'est rentré. Des limaces accrochées en boule. Jeanne, son père est opticien dans le centre. Sa mère ne travaille pas. Ils ont une grosse voiture noire. Elle est au premier rang, elle n'a pas de blouse. Je vois ses petites manches ballons comme deux grosses fleurs en haut de ses bras. La raie qui sépare ses cheveux en fesses noires et brillantes. Elle lève le doigt. Elle raconte. Elle fait rire la maîtresse. Elle ne pense même plus à ce qu'elle m'a dit. À l'aise. Mademoiselle, mon papa l'autre jour. Et ça intéresse la maîtresse. Toute la classe connaît les histoires de Jeanne, des parents de Jeanne. Je vois bien que les miennes ne sont pas pareilles, qu'il vaut mieux les cacher. De mauvais goût, elle dit la maîtresse. Et hier soir, le père Leduc était tellement saoul qu'il est tombé sur le trottoir, qu'il a dormi sur sa bouteille. La maîtresse se fige. Et pourtant, j'aurais bien continué. C'est ma mère qui a dû se payer le nettoyage, il avait dégueulé partout. Elle a changé tout de suite de conversation, la maîtresse. Ce que je vivais, elle n'intéressait jamais. Je me sentais lourde, poisseuse, face à leur aisance, à leur facilité, les filles de l'école libre. Denise le sûr. J'étais rien à côté, moi. La petite reine de l'épicerie café ici, c'était zéro. J'aurais voulu être Jeanne. Et après, des quantités d'autres qui me montraient leur supériorité en me méprisant.
Michel Zinck, cet extrait vous paraît nous ramener au Moyen-Âge ou d'abord illustrer votre idée que quand un humilié peut parler de son humiliation, il l'est déjà moins?
Cet extrait magnifique illustre cela, que en parlant de son humiliation, on est moins humilié. C'est une revanche d'Annie Ernaux. Hein. La petite Jeanne, si elle est encore là, elle doit se sentir assez mal à l'aise. Hein. Ça illustre le fait que lorsqu'on est dans la position d'Annie Ernaux et qu'on peut dire ça, on n'est plus humilié. On devient en situation d'humiliateur. Moi, je ne suis pas Annie Ernaux, je ne sais rien du tout. Donc, je ne pourrais pas me venger des humiliations. D'abord, je n'ai pas, pas été tellement humilié que ça. Tout le monde a été, mais enfin, ce n'est pas dramatique. Et ce à quoi vous faisiez allusion tout à l'heure, l'épisode que je racontais, c'est le contraire. J'étais humiliateur. Et c'est de cela que j'ai honte. J'avais à l'accompagnement mon meilleur ami, qui était le fils du forgeron maréchal Ferrand du hameau, avait un père qui était charmant, mais qui buvait trop. Bon. Et ça créait des problèmes familiaux, comme ça. Et un jour, je sais pas, j'avais peut-être 9 ans, j'ai pris l'air sage, comme ça, pour dire quand même, c'est pas bien, hein, c'est, oui, puis c'est triste, etc. À mon petit camarade, j'avais l'air à la fois pitoyé, à la fois de parler en général, de pas faire que ça. C'était fait de façon particulièrement vicieuse. Hein. Et c'est à cela que, enfin, pendant des années, je n'ai cessé de repenser en disant vraiment, c'était dégueulasse. Et enfin, Dieu merci, après je l'ai perdu de vue, puis je l'ai revu au bout de 50 ans, puis bon, j'ai oublié ça.
Voilà un aveu public qui nous emmène loin, Michel Zinc, de la pratique qui s'est développée au Moyen-Âge, c'est-à-dire, notamment à partir du Concile de Latran, c'est-à-dire la confession, qui, elle, reste secrète.
La confession est secrète. Alors, vous avez raison de mettre le doigt sur la confession. C'est quelque chose d'extrêmement important, parce que la confession a de toute façon quelque chose d'humiliant, même si elle est secrète et si on ne se confesse qu'à un prêtre.
Oui, mais c'est différent de le faire coram populo, oui. Vous qui aimez le latin.
Mais c'était tellement coram populo qu'à l'origine, on n'avouait même pas, c'est-à-dire qu'il y avait un péché public, et à ce moment-là, on était exclu de l'Église, et puis on a pu y être réintégré difficilement, etc. Et puis, il y a eu un moment, une réflexion sur l'absolution, puis c'était ça qui était en cause. Comment peut-on obtenir de Dieu qu'il efface le péché avant la mort, sinon on va en enfer? Et qui a abouti à l'obligation de la confession au moins une fois par an pour Pâques, en principe aux prêtres de sa paroisse, puis ensuite les ordres mendiants ont eu le droit de le faire. Et à ce moment-là, c'était quelque chose de très important parce que ça obligeait à l'introspection. Et dans le développement de la conscience occidentale, cette date de 1215, au Concile de Latran IV, où la confession annuelle, individuelle, secrète, a été rendue obligatoire, est une date extrêmement importante. Mais même dans ces conditions, naturellement, on hésite à aller se confesser. C'est pas agréable d'aller dire au prêtre, puis surtout si on le connaît d'autre part, ce qu'on a fait. Ça.
Comment les pères de l'Église ont-ils traité cette question? Je pense en particulier à saint Augustin qui s'est exprimé, ou saint Thomas d'Aquin, la question de l'humiliation qui nous réunit aujourd'hui.
Oui, alors sur l'humiliation même, ils ont relativement peu à dire parce qu'ils ne la prennent pas en considération ou peu dans la société. Il y a l'humilité, naturellement, et il y a l'humiliation par excellence qui est l'humiliation du Christ mis en croix. Et donc, cette scène qui est au cœur du christianisme et qui montre non seulement le personnage central, mais Dieu fait homme, qui subit le supplice le plus infamant qui existait à l'époque, et que les évangiles insistent avec un luxe de détails sur les injures qu'il fait, et on le déshabille, et on le fouette, et on les passe en ricane. Et c'est très long, et beaucoup plus long que le récit de la résurrection et de son triomphe. Mais au Moyen-Âge, et dès Saint-Augustin, on exalte la croix. Saint-Augustin dit, même dans son supplice, il a été élevé, évidemment, puisqu'il était sur la croix, il était en l'air.
Renversement complet de l'idée de l'humiliation.
Et ben voilà.
Michel Zinc, la manière dont le monde de la féodalité a pu s'accommoder de cette opposition entre la nécessité de l'humilité et la défense passionnée de l'honneur individuel.
Alors, là, c'est la grande contradiction du Moyen-Âge. C'est une toute société est une société de l'honneur. Dans toute société, être humilié publiquement met au ban de la société et est le pire châtiment. Mais particulièrement dans une société hiérarchisée comme celle du Moyen-Âge et une société guerrière comme celle du Moyen-Âge, hein, où c'est l'honneur chevaleresque, le courage chevaleresque, ces vertus qui sont mises en évidence. Et c'est pourquoi cette société est effectivement tiraillée. Du côté de la chevalerie, oui, il faut jamais être humilié, mais le héros le plus glorieux de tous les romans de chevalerie, c'est Lancelot, qui accepte pour un parabours pour la reine Guenièvre d'être trimballé dans une charrette, ce qui était considéré comme déshonorant à l'époque. Ou c'est le romancier Chrétien de Troyes qui dit, je ne sais pas si c'était vrai, que à l'époque, d'ailleurs il le passe dans le placé, à l'époque c'était les criminels, les déshonorés, les larrons qu'on transportait dans une charrette. Et il est monté dans la charrette pour l'amour de la reine Guenièvre.
Mais
et
le plus extraordinaire, c'est que la reine Guenièvre ensuite lui a reproché d'avoir hésité à monter dans la charrette, ce qui démontrait la limite de son amour pour elle.
Et voilà, enfin, elle le prend comme ça. Alors, non, ou l'exigence de la reine Guenièvre. Il hésite, il y a un débat en lui entre raison et amour. Et raison lui dit, mais ne monte pas dans la charrette, si tu montes dans la charrette, tu seras déshonoré, donc tu l'auras perdu de toute façon. Tu seras déshonoré, elle ne voudra plus t'aimer parce que tu auras été déshonoré. Il monte quand même. Il a hésité le temps de faire deux pas à côté de la charrette avant de monter dedans. Il retrouve Guenièvre, elle lui tourne le dos. Et on peut penser que c'est parce qu'il est monté dans la charrette. Pas du tout, c'est parce qu'il a attendu le faire de pas. Les femmes sont quand même exigeantes. Donc il y avait cette lutte, alors la société de l'honneur, l'exigence de l'amour courtois, comme nous disons, l'humilité chrétienne, et l'humiliation qu'elle lui impose plus loin à la fin du roman. Il est prisonnier, il s'évade et il arrive sous l'anonymat de son home à un tournoi. Et il se conduit si bien qu'elle se doute que c'est lui. Et pour le vérifier, elle envoie sa suivante lui glisser à l'oreille de ce chevalier inconnu, faites au pire, aux nods. Et aussitôt, il fait le lâche, il se sauve. Bon. Et à ce moment-là, elle renvoie la suivante lui dire « faites au mieux ». Et à ce moment-là, il redevient le chevalier et elle comprend que c'est lui. Ça illustre cette tension dans le domaine profane, si on peut dire, et amoureux en la circonstance. Mais la société le vivait dans sa dimension religieuse qui la modelait tout entière. Et on voit bien que l'Église est riche, est puissante, veut exercer un rôle politique, la querelle du pontificat et de l'Empire, les prélats vivent dans le faste, etc. Et les abbayes, d'abord le premier ordre à se développer, l'ordre clunisien, est infiniment riche et puissant.
Peu d'humilité, à vrai dire.
Et ben voilà. Mais à ce moment-là, on se dit, oui, mais c'est pas ça la pauvreté évangélique, c'est pas ça l'humilité évangélique. D'où, à l'intérieur même de l'Église, les réformes au XIe siècle, où on essaye de revenir à plus de pauvreté, plus d'austérité dans les ordres monastiques, les Saint Norbert et les Prémontrés, Saint Bruno et les Chartreux, Robert de Molèm, puis Saint Bernard de Clairvaux et les Franciscains. Et donc ces ordres sont de plus en plus austères. Mais l'ordre, les moines vivent dans l'austérité et la pauvreté, mais l'ordre est riche, il ne peut pas s'empêcher d'être riche. Ils sont de plus en plus riches. Et d'où l'idée qu'il ne faut pas que l'ordre, ce n'est pas seulement que le moine doit être pauvre, il faut que l'ordre lui-même soit pauvre. D'où la création des ordres mendiants, les dominicains, surtout les franciscains, au début du XIIIe siècle.
François d'Assise, à cet égard, il se met tout nu.
Il se met tout nu. François d'Assise, lui, pratique l'humiliation volontaire et il rejoint un autre personnage qui est le fou de Dieu.
Michel Zinc, si on reprend, c'est toujours le dialogue entre les textes sacrés et ce Moyen-Âge, si on revient à la crucifixion, il y a le cas du mauvais larron. J'ai envie de vous faire entendre un poème de Norges, c'est un grand poète belge, je le dédie particulièrement à nos auditeurs et nos auditrices d'outre-Quiévrin. Norges, qui était un poète qui a parcouru tout le XXe siècle et qui nous propose ce texte intitulé « Le mauvais larron ». Écoutons-le. Il est lu ici par Lucienne Le Tondal en 1983.
« Celui des trois qui a le moins de chance, excusez-moi, je m'y connais si peu, et puis son cas, excusez-moi, messieurs, en général est passé sous silence. Ce garçon-là, je crois qu'il a souffert autant qu'un autre. » Et même plus j'y pense, et plus je trouve, excusez si j'offense, endurer ça pour aller en enfer. Enfin, languir avec ses quatre clous aux pieds, aux mains, des heures et des heures, crever méchant, soit, vous seriez bon, vous, avec ces trous et ce sang qui vous pleure? C'est entendu, c'est un dur, un pervers. Jusqu'à la mort, dans son mal, il se vautre. C'est fort quand même, aller seul en enfer, si près d'un Dieu qui sauve tous les autres. Son camarade, avec deux, trois prières, va droit au ciel. Et lui, sur son poteau, s'enrage seul et se tord les boyaux et souffre tout pour aller en enfer. Son camarade, avec le cœur des anges, va jubiler toute l'éternité. Et c'est sur lui tout seul que Dieu se venge de ces mots qu'il a lui-même inventés. Excusez-moi si je n'y comprends rien. Oui, je saisis l'énorme différence. Mais en tout cas, ce garçon-là, c'est bien celui des trois qui a le moins de chance.
Le mauvais larron, c'est l'humiliation suprême, Michel Zinc.
C'est l'humiliation suprême. Le poème est magnifique et il répond finalement à ce que nous disions. Le Moyen-Âge, Saint-Augustin s'arrange pour dire que la croix est une exaltation du Christ. Donc, le Christ est humilié, mais il est humilié par les méchants, donc il n'est pas vraiment humilié. Le bon larron s'en tire. Mais il faut remarquer que le bon larron, qui a joué un grand rôle au Moyen-Âge, Dismas, le bon larron, il y a eu un culte, et il y a un très beau livre de Christiane Clapiche-Joubert sur la question. Ce bon larron n'apparaît que dans un seul évangile. Et les deux autres synoptiques disent que les deux larrons qui l'entouraient, les deux malfaiteurs qui l'entouraient, se moquaient de lui avec les autres. Donc c'est l'un des évangélistes en a sauvé un. C'est rassurant pour nous, ça montre la miséricorde de Dieu, ça montre qu'il ne faut jamais désespérer, ça montre que même in articulo mortis, on peut espérer le salut, c'est très important dans la théologie chrétienne, mais la passion du Christ est plus complète si même ceux qui souffrent avec lui participent à son humiliation.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Alors venons-en maintenant, Michel Zinc, dans cette émission consacrée à l'humiliation au Moyen-Âge, un certain nombre d'humiliés et d'offensés, pour reprendre le titre du roman de Dostoïevski. Et vous parliez des fous. Fous, soit par amour des femmes, soit par une obsession de la divinité qui les conduit trop loin.
Le fou est un personnage important au Moyen-Âge, comme dans toutes les civilisations, parce que, à la fois, on se moque de lui et il n'est moins que rien. En même temps, on le craint, il peut être possédé, il peut avoir... Donc, il y a toujours une attitude ambiguë envers le fou. Et au Moyen-Âge, on se moque du fou, on le harcèle d'une façon ritualisée, d'une certaine façon. Mais dans la littérature, on trouve deux sortes de fous, les fous d'amour et les fous de Dieu. Mais les fous de Dieu sont aussi des fous d'amour. Ils sont fous par amour de Dieu. Oui, c'est les fous d'amour comme les fous de Dieu posent la question du vrai fou et de celui qui feint la folie, comme dit Aragon. Dans le Conseil aux 100 villages, il cite un village qui s'appelle Feint la folie. Et dans un autre des poèmes de la résistance, hein, il se compare, il dit « Je suis ce chevalier qu'on dit de la charrette et accepte d'être exhibé, enfin je n'ai pas, j'oublie le texte, parmi les malandrins, comme accepta mourir Jésus de Nazareth. » Donc il fait le rapprochement entre l'humiliation de Lancelot et celle du Christ, et ensuite il décrit ces formes d'humiliation, me tenir à côté de l'étrier du traître, et feindre la folie, ainsi que fit Tristan. Donc le résistant qui doit jouer double jeu. Tristan et Iseult, ils s'aiment, non pas spontanément, mais parce qu'ils ont bu le philtre d'amour, le vin herbé, la décoction préparée par la reine d'Irlande, mère d'Iseult, pour que sa fille Iseult et celui qu'elle devait épouser, le roi Marc, beau plus âgé, la boivent et qu'ils tombent amoureux l'un de l'autre, que ce mariage arrangé devienne un mariage d'amour.
Mais le filtre est mal distribué.
Mais voilà que c'est Tristan et Iseult qu'ils boivent, et donc ils s'aiment, comme on sait que s'aiment Tristan et Iseult.
Rien d'humiliant là.
Non, c'est vrai bien. Mais parce qu'ils sont drogués. Ce sont des drogués. Et les poètes du Moyen-Âge, à la fois fascinés et avec un peu de répulsion pour Tristan et Iseult, le signalent, disent « Moi, j'aime mieux que Tristan aimait Iseult parce que lui, il pouvait pas faire autrement, il était drogué. Tandis que moi, je vous aime parce que je vous ai choisi, etc. » Bon. Alors, Tristan et Iseult, d'une certaine façon, sont réellement fous d'amour. Ils ne sont plus eux-mêmes. S'ils n'avaient pas bu le philtre, ils ne s'aiment pas, ils sont fous. Comme on est fou quand on est drogué. Ce qui est à la fois l'extrême de l'amour et quelque chose qui est autre chose que l'amour, vu du Moyen-Âge. Mais Tristan joue à être fou, fait semblant d'être fou, à un moment, pour revoir Iseult, passage essentiel et qu'on trouve traité dans des poèmes isolés, pas comme un épisode capital. Ils se déguisent en fous, les fous avaient une tenue particulière, un bâton, ils étaient tonsurés, bon, on ne peut plus beaucoup me tonsurer, mais tonsurés à l'envers avec une croix, et ils se présentent à la cour du roi Marc, où ils jouent à celui qui est fou, du coup, on lui fait jouer provisoirement le rôle de fou du roi, et à ce moment-là, ce fou glisse des propos que seul Iseult peut comprendre, et il parvient à la rejoindre. Donc c'est un fou qui agit très lucidement pour parvenir à ses fins en endossant le personnage du fou.
Mais à partir d'un filtre, et nous ne ferons pas de rapprochement malvenu avec certaines poudres versées dans certains verres de champagne tout récemment. Restons dans notre Moyen-Âge, Michel Zinc. Écoutez donc cette chanson de Jacques Brel de 1955, « Le fou du roi », et vous me direz si elle vous paraît fidèle aux propos que vous venez de tenir.
Il était un fou du roi qui vivait l'âme sereine en un château d'autrefois pour l'amour d'une reine. Et vive les bossus ma mère, et vive les pendus, et vive les bossus ma mère, et vive les pendus. Il y eut une grande chasse où les nobles deux par deux, tous les 10 mètres s'embrassent en des chemins qu'on dit creux. Et vive les bossus ma mère, et vive les pendus, et vive les bossus ma mère, et vive les pendus. Lorsque le fou vit la reine, courtisé par un beau comte, il s'enfuit le cœur en peine, dans un bois pleuré de honte. Et vive les bossus ma mère, et vive les pendus, et vive les bossus ma mère, et vive les pendus. Lorsque 3 jours furent passés, il revint vers le château et alla tout raconter dans sa tour au roi là-haut. Et vive les bossus ma mère, et vive les pendus, et vive les bossus ma mère, et vive les pendus. Devant tout ce qu'on lui raconte, tout un jour le roi a ri, il fit décorer le conte. Et c'est le fou qu'on pendit. Et vive les bossus ma mère, et vive les pendus, et vive les bossus ma mère, et vive les pendus.
« Cette chanson de Jacques Brel, vous paraît, Michel Zingue, rendre assez bien compte de leur situation dans ce Moyen-Âge que nous évoquons ce matin.
Le personnage du fou du roi est plutôt, comme personnage officiel en somme de la cour, est plutôt un personnage de la fin du Moyen-Âge, avec sa tenue particulière, sa marotte, son bonnet à clochette, etc.
Victor Hugo.
Voilà, c'est ça, avec Triboulet. Et on voit les moments dans les manuscrits où on se type de fou, mais dans des manuscrits tardifs. Dès que c'est incipiens in corde suo non est deus, le fou dit en son cœur « Dieu n'existe pas », mais incipiens, c'est-à-dire c'est très important, rien, désigne à la fois celui qui n'est pas sapiens, mais sapiens c'est à la fois sage et savant. Donc c'est à la fois l'ignorant et le fou, et le fou du roi pouvait être un vrai fou, dont on riait, ou ça pouvait être quelqu'un qui n'était pas fou du tout, ou qui avait une infirmité, qui était un nain souvent, et qui jouait au bouffon. C'est quelque chose de très particulier. Donc il était humilié parce qu'il était dans cette situation d'amuseur, forcément, mais c'était pas le pire. Et en fait, on voit plus l'humiliation dans un poète comme Eustache Deschamps, à la fin du XIVe siècle, qui est un amuseur des grands, qui est un proche du duc d'Orléans, proche des plus grands seigneurs, et qui se plaint, qui écrit des poèmes de circonstances pour eux, et qui se plaint d'être obligé d'amuser, qui se voit vieillir et qui est terrifié à l'idée qu'il n'amusera plus et que, et voilà, on se moquera de lui, toujours vieux singe et déplaisant, dit-il.
Considérons, Michel Zingue, d'autres catégories d'humiliés dans ce Moyen-Âge qui vous est cher, je pense par exemple aux Juifs, est-ce qu'ils sont humiliés à vos yeux constamment?
Oui, les Juifs sont dans une situation qui est constamment une situation d'humiliation, puisqu'ils sont toujours un peu menacés, puisqu'ils sont traités au mieux avec éloignement et condescendance. Mais
Saint-Louis leur impose la rouelle.
Saint-Louis leur impose la rouelle, mais a un rabbin favori qui l'invite à sa table, enfin, avec qui il a de grandes discussions théologiques. L'Église, évidemment, n'est pas tendre pour les Juifs, mais Saint-Bernard de Clairvaux, qui n'est pas un tendre, va exprès en Rhénanie pour mettre fin au pogrom. Les papes, il y a la catégorie des Juifs du pape, c'est dans les états du pape qu'ils sont protégés. Mais pour les Juifs, la situation est souvent tellement dramatique qu'on est au-delà des petites misères qu'on fait aux fous. C'est autre chose.
Une autre catégorie à laquelle vous prêtez beaucoup d'attention, c'est celle des malades, et en particulier des lépreux. Écoutez donc cette archive qui nous rend compte d'un congé d'Arras. Vous expliquerez ce dont il s'agit de Jean Bedel, raconté par Gustave Cohen, un grand maître de l'histoire de la littérature au Moyen-Âge, dans l'émission « Théâtre et musique en France au Moyen-Âge », une émission du 17 novembre 1956, voici donc près de 70 ans.
La destinée de Jean Bedel finit plus tragiquement que sa pièce. Il fut frappé de la lèpre, cet horrible mal qui représente pour le Moyen-Âge ce que le cancer est pour nous aujourd'hui. Mais il en trouva la prophylaxie. Le lépreux était banni de la communauté et mort au monde. On se partageait ses biens et il trouvait asile dans une tour lointaine, la léproserie, où on lui apportait sa nourriture par un guichet. La tête coiffée d'une cagoule, il avertissait les gens de le fuir en faisant retentir sa cliquette ou crécelle. Réduit à cette extrémité, le poète trouva cependant la force de prendre congé de ses amis. C'est le congé de Jean Bedel, créant ainsi un genre qui devait fleurir dans sa bonne ville d'Arras et qui s'étendit à des cas moins terribles, celui d'un simple départ volontaire ou forcé. Il mourut en 1210, ainsi qu'il est porté sur le livre rouge de la confrérie des jongleurs et bourgeois d'Arras.
Alors que dire du cas de ce lépreux absolu, peut-on...
Oui, alors, on entend la voix un peu solennelle d'un professeur à la Sorbonne de ces années-là. Et il faut penser à Gustave Cohen, grand mutilé de la guerre de 14, juif converti au catholicisme, dont le cours, avant la guerre, dans les années 30, était envahi par les camelots du roi, qui l'interrompent en disant « sale juif ».
L'humiliation.
Eh ben voilà, l'humiliation. Alors, les lépreux, donc, il explique très bien la situation qui était faite aux lépreux, et il fait allusion à ce poème, ces congés de 400 vers admirables, écrits par ce Jean Baudel. Il vient d'expliquer la situation très bien. Mais ce qui est terrible dans le cas de Jean Baudel, c'est un très très grand poète d'Arras, qui était la plus grande ville littéraire de l'époque, en 1202 s'aperçoit qu'il est lépreux au moment où il vient de prendre la croix pour partir pour la croisade, c'est la quatrième croisade. Et donc, en même temps, il est lépreux et il perd le bénéfice des indulgences, l'indulgence plénière donnée aux croisés.
Double
comme
peine.
Double malédiction, en quelque sorte. Et il écrit ce poème où il fait le tour de la ville, en prenant successivement congé tous ses amis, en exhibant ensemble cette situation, mais en disant, voilà, j'aime mieux partir qu'on me boute, j'aime mieux prendre congé de vous avant qu'on me flanque à la porte, et ce poème est en même temps une méditation constante pour espérer que c'est une qu'il fait ensemble sa pénitence en ce monde et que c'est une grâce de Dieu, le mal qui le frappe et cette exclusion qu'il atteint plutôt qu'une malédiction.
Michel Zinc, nous ne pouvons pas faire l'économie d'une réflexion sur la situation des chevaliers, des guerriers, et le cas de la chanson de Roland. Je pense notamment aux relations qui sont moins simples qu'on ne le dit souvent, qu'on ne le disait dans nos manuels, entre Roland et Ganelon, supposé être le traître. Dites-nous-en un mot, s'il vous plaît.
Dans ce poème si ancien, dans sa version la plus ancienne, qui paraît si raide, qui paraît si simple, la situation des personnages est très compliquée et tout repose sur une humiliation. Ganelon est le beau-père de Roland, le mari de sa mère. Donc Roland lui doit respect. Mais Roland est le neveu chéri de Charlemagne, le fils de sa sœur. Et d'ailleurs, dans certaines légendes, son fils incestueux. Et Charlemagne aime mieux Roland, et puis Roland, c'est le héros par excellence, il le préfère à Ganelon. Et au moment où il s'agit d'envoyer une ambassade, un ambassadeur, dans cette mission très dangereuse, car on ne sait pas si ce n'est pas une trahison, ou un piège plutôt, auprès du roi païen Marsile, Roland se propose, Charlemagne le récuse, il récuse tous les pères, il récuse l'archevêque Turpin, il les récuse parce qu'il ne veut pas les mettre en danger, il a trop besoin d'eux. Et à ce moment-là, Roland dit « Mais alors, ce sera Ganelon, mon parâtre, mon beau-père, ce qui n'a rien de désobligeant, parâtre. » Au contraire, il le met en valeur, mais c'est insultant pour Ganelon. Ben, ça veut dire « Vous tenez trop à nous, alors prenez Ganelon, lui, vous pouvez l'envoyer. » Et effectivement…
Donc la première humiliation, elle est celle-ci.
Elle est là. Roland humilie Ganelon et… avec l'assentiment de Charlemagne qui en rajoute, parce que Charlemagne ne dit rien, puis quand il prend la parole, c'est pour dire que c'est fait. La parole de Roland suffit à désigner Ganelon, ben oui, préparez-vous, allez-y. Et Ganelon, furieux, menace Roland, de sorte qu'on ne pourra pas dire ensuite qu'il n'avait pas menacé Roland. Hein. Il dit « je ne vous aime pas, j'aime pas les 12 pères, etc. » Et il dit à Charlemagne « je laisse ma femme, votre sœur, et mon fils, hein, et je ne les reverrai peut-être pas. » Et Charlemagne, qui n'a rien dit jusque-là, lui répond « vous avez le cœur trop tendre, puisque je l'ordonne, il vous faut y aller. » Et Ganelon, devant le roi Marsile, défend Charlemagne, il manque se faire tuer par le roi Marsile. Mais à ce moment-là, il lui dit, il trouve l'idée de se venger, non pas de Charlemagne, de Roland. Et il dit, je vais me débrouiller pour que Roland commande l'arrière-garde. Attaquer l'arrière-garde, Roland est si orgueilleux qu'il n'appellera pas à l'aide, il se fera tuer sur place.
Mais il a appelé finalement en jouant du corps.
Oui, mais il a appelé trop tard. C'est un pari sur la psychologie de Roland, de la part de Ganelon. Et il gagne.
Mais c'est la revanche de l'humiliation première de Ganelon par Roland, ce qu'on ne nous enseignait pas.
Tout repose là-dessus.
Alors pour finir, Michel Zinc, cette énumération des catégories d'humiliés au Moyen-Âge, il faut revenir à ce qu'évoquait Rudebeuf, tel que l'interprétait John Baez au début de notre rencontre, je veux dire la pauvreté. Les pauvres sont humiliés ou non ?
Les pauvres sont nécessairement humiliés, les pauvres se trouvent toujours humiliés, d'une façon ou d'une autre. Là encore joue cette contradiction de cette société à la fois hiérarchisée et chrétienne. il y a un genre littéraire, en somme, qu'on trouve sous forme de poèmes, sous forme de sermons, qui est la revue des états du monde. Et on s'adresse aux différentes catégories, aux princes, aux prélats, aux moines, aux marchands, etc. Et c'était textuellement, par exemple, dans un poème d'un évêque, conseiller du roi d'Angleterre au XIIe siècle, Étienne de Fougères, les prélats vont en enfer. Enfin, individuellement, ils peuvent se sauver, mais de même, ils vont en enfer parce qu'ils sont simoniaques. Les moines vont en enfer parce qu'ils sont luxurieux. Les chevaliers vont en enfer parce qu'ils sont violents. Mais les paysans, par leur état, font leur salut parce qu'ils nourrissent le peuple de Dieu. Donc il y a toujours cette ambiguïté. Alors théoriquement, donc c'est très très bien d'être paysan, mais quand on regarde la littérature profane, c'est une littérature profane, à ce moment-là, on se moque des paysans. On se moque alors de la dernière catégorie des paysans, qui sont les bergers, et en particulier dans ces poèmes de séduction, qui sont les pastourelles, où le chevalier, dans le poème, le chevalier raconte qu'il se promène dans la campagne, il rencontre une bergère, il lui fait des propositions déshonnêtes, et elle dit oui, elle dit non, il la convainc, il ne la convainc pas, il essaye de prendre de force, le berger l'achat, mais chaque fois, il se moque d'elle, mais elle se moque de lui.
Alors, il faut s'interroger aussi, forcément, Michel Zinck, sur la situation des femmes dans cette société médiévale. Est-ce que la tendance est de les humilier davantage avec toute la connotation sexuelle, le viol, etc. Et la condition féminine comporte-t-elle plus d'humiliation à cette époque ?
Ça dépend de la condition sociale de la femme. Évidemment qu'une bergère est exposée aux outrages du monsieur qu'elle croise dans les champs, ou du séducteur. C'est même un genre poétique en soi, la pastourelle, du point de vue du chevalier, comment il séduit la bergère. Donc c'est un genre littéraire qui a eu un très grand succès. Mais il y a de temps en temps, ça se termine pratiquement par un viol. Mais il y a d'autres cas, presque plus nombreux, où c'est le chevalier qui est ridiculisé. Dans ses poèmes.
Mais dans la réalité quotidienne.
Alors, bah dans la réalité, moi, je n'y étais pas. Mais je suppose que, oui, ce n'était pas très drôle pour les femmes de basse condition face au Seigneur. Mais lorsqu'il est question de ces choses-là, c'est souvent, il n'y avait pas d'approbation. Personne n'approuvait le viol, même de femmes de basse condition. Il n'y a pas une approbation, on ne trouve pas naturel de violer même une paysanne. Ça ne devait pas se passer de façon très agréable pour elle dans la réalité, mais le principe de la société du temps n'était pas de dire « Oh, avec une bergère, ça n'a pas d'importance ».
Aux yeux de tous, elle subissait donc là l'humiliation suprême.
Elle subissait l'humiliation suprême. Mais une femme mariée contre son gré, ce qui était très fréquent aussi. D'un autre côté, ce n'était pas la situation de l'Europe victorienne, c'est-à-dire que les femmes avaient beaucoup plus d'indépendance qu'elles n'en ont eu plus tard. Elles disposaient librement de leur fortune, elles pouvaient régner, il y a eu le cas particulier de la loi salique, particulier. Et dans le système amoureux, elles étaient supposées imposer leur volonté à l'homme. Mais on l'a vu avec, ou à leur soupirant, on l'a vu avec Lancelot.
Donc dans la littérature, il leur arrivait de retourner l'humiliation
oui,
à leur profit.
Oui, mais je donne une image trop plaisante, parce que dans les romans arthuriens, et en particulier dans les tardifs au XIIIe siècle, on vous explique que dans le code chevaleresque, si un chevalier rencontre un autre chevalier accompagnant une demoiselle, eh bien, il peut le défier pour conquérir la demoiselle.
Il n'est plus qu'un objet.
Et pas dans les romans classiques, naturellement pas dans Chrétien de Troyes qui est amoraliste, mais dans des romans en prose du XIIIe siècle, dans Guiron le Courtois, on voit des violences de ce genre. Mais là encore, ce n'est pas... on vous explique que ça se passait autrefois. C'était jamais aussi simple qu'on en a l'impression. Il est toujours très difficile de se mettre à la place d'une civilisation aussi ancienne. Et donc la comparaison... le Moyen-Âge aurait bien eu besoin de MeToo comme toutes les époques anciennes, mais dans des conditions qui ne sont pas exactement celles d'aujourd'hui. Chaque fois que nous appliquons telles quelles nos valeurs et nos jugements à une époque du passé, naturellement, on tombe à côté.
C'est à la fois une nécessité de comparer et une nécessité d'insister sur la différence, voilà qui est claire voilà. À ce micro. Michel Zang, merci beaucoup. Vous nous avez donné un très beau livre avec celui qui nous a servi à fonder notre conversation, L'humiliation, le Moyen-Âge et nous, paru chez Albin Michel. Vous nous avez plus récemment offert un autre ouvrage qui s'appelle Parler aux simples gens, entre guillemets simples gens, un art médiéval aux éditions du Cerf. De quoi s'agit-il ?
Eh bien, en fait, les deux livres sont un peu dans la même lignée et c'est sur le fait que les langues romanes, les langues nées sur les débris du latin parlé, sont devenues très vite des langues de culture et des langues littéraires. Et que cette rapidité a été favorisée par la nécessité de s'adresser aux ignorants ou à ceux qui ne savaient pas le latin, à partir du moment où le latin parlé était tellement différent du latin officiel que c'était une nouvelle langue, c'était la langue d'Ouïe, la langue d'Oc, les langues d'Espagne, d'Italie, etc. Et à ce moment-là, les clercs qui avaient le latin ont été obligés de s'adresser aux ignorants parce que la religion chrétienne imposait de les convertir. Dans l'Antiquité, la religion romaine est une religion civique. On ne vous demande pas ce que vous en pensez. Vous faites les sacrifices qu'il faut, vous faites ce qu'il faut, et tout va bien.
Donc inutile de trouver le moyen de parler aux plus humbles, tandis que là...
Tandis que là, on est obligé. Il faut bien qu'ils comprennent ce à quoi ils doivent croire et qu'on leur explique de quoi il s'agit. Et ça a joué un rôle considérable dans le développement de notre culture et de nos littératures.
Je signale aussi que je viens de recevoir le livre de la grande historienne du Moyen-Âge qui est Claude Gauvard, sais que vous l'appréciez beaucoup, qui s'appelle Passionnément Moyen-Âge, plaidoyer pour le petit peuple, nous restons dans votre secteur. Voilà. Ce livre est paru chez Talendier, et puis aussi le livre de Régine Lejean, qui s'appelle « Amis ou ennemis, émotions, relations, identité au Moyen-Âge ». Ce champ est largement labouré. Et je ne voudrais pas, Michel Zang, que nous nous séparions sans que je signale que vous avez également fait un pastiche de Arsène Lupin dans la ligne de Maurice Leblanc. Cela peut surprendre.
J'écris des petits romans que personne ne lit. Hein. Et celui-là, comme il y avait Arsène Lupin, j'écris un petit qui s'appelle « Arsène Lupin et le mystère d'Arsonval ». Qui est une sorte de pastiche, même stylistique, un peu à la Maurice Leblanc.
Recommande cet ouvrage, j'y ai pris personnellement du plaisir. Il y a des humiliés dans ce livre ?
Arsène Lupin est un humiliateur. Il aime rire de ses victimes, mettre le nez dans leurs bêtises, etc. Il se moque de Ganimard, tout ça. Ça fait partie de l'art littéraire de Maurice Leblanc.
Eh bien, nous ne quitterons pas le thème de l'humiliation dont nous avons traité ce matin, Michel Zang. Je rappelle à nos auditeurs et à nos auditrices qu'ils pourront trouver une bibliographie plus complète, et la vôtre est évidemment très riche, sur notre site avec les références des documents que nous avons utilisés, des documents sonores, et vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster cette émission. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Inès Benslama, réalisée par Vincent Abouchard, ma magnifique équipe, avec la prise de son Adrien Gaza, avec à la discothèque Nathalie Rouvillain, avec pour les archives de l'INA Véronique Jolivet et pour la documentation, qui travaille très très bien, elle est extrêmement précieuse, Timothée Fernandez-Lopez.